Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 6 janvier 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Élection sénatoriale américaine en Géorgie. Les démocrates se rapprochent du contrôle du Sénat alors que le Congrès doit formellement entériner la victoire de Joe Biden. Le pape François a appelé les centrafricains à éviter la violence après la réélection contestée du président Faustin Archange Touadéra. En République démocratique du Congo, nouveau naufrage dans le lac Kivu où plus de 20 personnes sont portées disparues. Les États-Unis aident le Soudan à rembourser 1 milliard de dollars à la Banque mondiale. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. On commence par l'actualité américaine. Le Congrès américain se réunit formellement ce mercredi pour certifier les résultats de la présidentielle. Le président Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite. Il avait appelé ses partisans à se mobiliser et s'est adressé à eux dans un discours à Washington. On écoute un extrait de ce discours.
Pourquoi on m'a dit que si je passais de 63 millions, ce que nous avions il y a 4 ans, à 66 millions, il n'y avait aucune chance de perdre? Eh bien, nous ne sommes pas allés à 66, nous sommes allés à 75 millions. Et ils disent que nous avons perdu. Nous n'avons pas perdu. Et au fait, est-ce que quelqu'un ici pense que Joe a eu 80 millions de votes? Est-ce que quelqu'un le croit vraiment? Il avait 80 millions de votes électroniques. Prenez les pays du tiers-monde. Leurs élections sont plus honnêtes que ce que nous avons vécu dans ce pays. C'est une honte. C'est une honte. Même quand on regarde la nuit dernière, ils couraient tous comme des poulets, la tête coupée, portant des boîtes. Personne ne sait ce qui se passe. Il n'y a jamais rien eu de tel. Nous ne les laisserons pas faire, nous ne les laisserons pas taire vos voix. Nous n'allons pas laisser cela arriver.
Le vice-président américain Mike Pence a fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle. S'abritant derrière les contraintes de la Constitution, il a présenté ses arguments dans un courrier publié avant l'ouverture de la séance du Congrès destinée à enregistrer officiellement les résultats du scrutin du 3 novembre. Mike Pence, en sa qualité de président du Sénat, préside la session. Des objections sont possibles dans au moins 6 États. Une fois le processus de comptage terminé, M. Pence lira la feuille de pointage et annoncera l'élection du président et du vice-président. Dans l'État américain de Géorgie, le candidat démocrate Raphaël Warnock s'est annoncé vainqueur face à la sénatrice républicaine Kelly LeFleur. Si sa victoire est confirmée, il sera le premier noir sénateur de cet État du Sud. Les résultats du vote pour le second siège du Sénat sont très serrés. Le point avec John Lyndon.
Selon plusieurs chaînes de télévision américaines, Raphaël Warnock, pasteur d'une église d'Atlanta où officiait Martin Luther King, marquera l'histoire en devenant le premier sénateur noir élu dans cet État du Sud. Peu après la fermeture des bureaux de vote hier soir, il avait revendiqué la victoire face à la sénatrice républicaine sortante Kelly LeFleur, qui n'a pas concédé sa défaite. L'autre candidat démocrate, John Ossoff, a revendiqué lui aussi ce matin la victoire face au sénateur républicain sortant David Perdue, qui n'a encore concédé sa défaite. « Georgie, merci pour la confiance que vous m'avez accordée », a-t-il déclaré lors d'une brève déclaration. Si sa victoire se confirme, John Ossoff, 33 ans, serait historiquement le plus jeune sénateur après Joe Biden, qui est entré au Sénat à l'âge de 29 ans. Pour le moment, les grands médias américains n'ont pas encore annoncé le vainqueur de ce scrutin serré, ni les responsables locaux chargés de ces élections cruciales pour le futur contrôle du Sénat américain.
Le pape François, qui s'était rendu en Centrafrique en 2015 pour encourager la réconciliation, a appelé les forces politiques du pays à éviter la violence, alors que l'opposition conteste les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
C'est après l'Angélus de la fête chrétienne de l'Épiphanie que le pape François s'est exprimé. « Je suis avec attention et préoccupation les événements dans la République centrafricaine où se sont déroulées récemment des élections au cours desquelles le peuple a manifesté son désir de continuer sur le chemin de la paix », a commenté le pape argentin. « J'invite toutes les parties à un dialogue fraternel et respectueux, à repousser la haine et à éviter toute forme de violence », a ajouté le souverain pontife. 10 candidats de l'opposition demandent l'annulation de la réélection du président Faustin Archange Touadéra dans un scrutin qu'ils jugent discrédité, n'ayant permis, selon eux, qu'à un électeur sur deux de voter. Le pape François s'était rendu en novembre 2015 à Bangui. Il s'était rendu à la mosquée centrale de la capitale qui a été le théâtre d'atrocités à la fin 2013.
L'autorité électorale avait annoncé lundi que M. Touadéra avait recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour, soit 53,92%. Mais la Cour constitutionnelle a jusqu'au 19 janvier pour valider ce résultat après les recours annoncés par l'opposition. Le taux de participation annoncé à 76,31% n'a tenu compte que de quelque 910 000 électeurs inscrits sur 1,8 million répertoriés dans les listes électorales. En République démocratique du Congo, deux corps ont été repêchés suite au naufrage d'une pirogue dans le lac Kivu ce mercredi. 20 personnes sont portées disparues et 40 sont rescapées. Le drame s'est produit à Niabiré. L'embarcation en provenance de Katana se rendait à Goma avec une soixantaine de passagers. Selon la société civile locale, la pirogue qui a chaviré n'était pas destinée au transport des personnes, mais à la pêche. Médecins sans frontières rapporte avoir pris en charge 8 blessés graves au Mali suite à des bombardements sur les villages de Bounti et Kikara dans le centre du pays dimanche dernier. L'armée française a affirmé que ses avions ont éliminé des dizaines de djihadistes dans le secteur, tandis que des villageois et une association Peul ont rapporté la mort de civils après l'attaque d'un hélicoptère à Bounti. L'état-major français a affirmé ne pas avoir utilisé d'hélicoptère. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé mardi soir l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu nocturne pour les régions de Dakar et Thiès afin de freiner la progression du coronavirus. Le couvre-feu est valable de 21h à 5h, a déclaré M. Sall. Ces deux régions concentrent presque 90% des cas de coronavirus dans le pays, selon le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a signé ce mercredi, lors d'une brève visite à Khartoum, un accord donnant accès au Soudan à plus d'un milliard de dollars destinés à rembourser sa dette envers la Banque mondiale. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'annonce de cet accord a été faite par le ministère soudanais des Finances. La ministre par intérim Iba Ahmed et Steven Mnuchin ont signé un protocole d'accord à Khartoum pour fournir une facilité de financement afin de couvrir les arriérés du Soudan envers la Banque mondiale. Cette initiative va permettre au Soudan d'avoir de nouveau accès au financement de la Banque mondiale pour la première fois en 27 ans, a précisé un communiqué du ministère. Selon le gouvernement soudanais, la situation économique, l'aide des États-Unis et l'allègement de la dette estimée à 60 milliards de dollars figuraient au menu de la visite de l'officiel américain. Elle intervient alors que le pays, dirigé par des autorités de transition vers un pouvoir civil, connaît une grave crise économique accentuée par l'épidémie de COVID-19, une inflation galopante et une énorme dette. En décembre, les États-Unis ont retiré le Soudan de sa liste des États soutenant le terrorisme, levant les sanctions et ouvrant la voie aux investissements internationaux dont le pays a été privé pendant des décennies. Ceci après la normalisation des relations entre le Soudan et Israël.
Lors de cette visite à Khartoum du secrétaire américain au Trésor, le Soudan a également signé avec les États-Unis les accords dits d'Abraham sur la normalisation des relations avec Israël, a annoncé l'ambassade américaine à Khartoum. Ces accords aideront davantage le Soudan sur la voie de la stabilité, la sécurité et l'opportunité économique, a déclaré l'ambassade sur Twitter. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
Au Gabon, les secteurs pétrolier et cimentier font face à une conjoncture difficile avec respectivement une baisse de 6,9% des exportations et une chute de 8,6% de la production. Le secteur pétrolier sur lequel repose plus de 80% des ressources du pays a été durement frappé par la chute des prix du pétrole sur le marché mondial et les effets de la pandémie de coronavirus. Les ventes de ciment ont reculé de 6,8% pour se situer à 385 655 tonnes, soit un chiffre d'affaires de 27,9 milliards de francs CFA. Au Sénégal, le taux de croissance du produit intérieur brut réel en 2019 est à 4,4% contre 6,2% en 2018, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette situation est consécutive au ralentissement de l'activité des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, explique l'ANSD dans sa publication Comptes nationaux provisoires de 2019 et définitifs de 2018. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale vient de lever 107 milliards de francs CFA sur le marché financier de la CEMAC. Ce montant est issu de l'emprunt obligatoire émis entre le 21 et le 29 décembre 2020 par appel public à l'épargne des acteurs financiers des 10 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Suite et fin ce soir des rencontres retour du deuxième tour préliminaire des matchs interclubs. En Ligue des Champions, les Nyang Bifalos de l'Eswatini n'ont pas fait le poids devant l'AS Vita Club de Kinshasa, qui les a laminés 4-1 pour se qualifier pour la phase de poule. L'autre club congolais, le tout-puissant Mazembe, a fait le boulot à Lubumbashi face aux Gabonais de Bouenguidi, battu 2-1. Les Gabonais le reconnaissent. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux.
On a croisé Mazembe dans ses beaux jours et on a joué le match à fond. On s'est battu avec nos armes et malheureusement on a perdu. Je dirais oui, Mazembe mérite sa victoire vu qu'ils ont apporté un peu plus de mouvement dans le jeu. Voilà. Et nous, ça n'a pas suivi et du coup, on a encaissé ces deux buts trop tôt qui nous ont coûté cher. Chapeau à eux et bonne continuation.
Junior Bayana, attaquant de Bouenguidi au micro de Lucien Kaouzi Koucha, notre correspondant Swahili à Lubumbashi. Victoire insuffisante. 2-1 des Nigériens d'Enimba face à Almerek du Soudan. Le Belouizdad d'Algérie s'est qualifié en battant Gor Mahia du Kenya 1-2. Ça passe aussi pour l'Espérance de Tunis vainqueur 3-2 d'Al Ahly de Benghazi, tout comme pour le MC Alger. Malgré sa défaite 1-0 devant le CS Sfaxien de Tunis, Simba de la Tanzanie s'en sort aussi devant Platinum du Zimbabwe, écrasé 4-0. Hier, la surprise est venue de Casablanca où le petit pousset sénégalais Teguff FC a sorti le Raja. L'unique représentant du Sénégal s'est qualifié pour la phase de groupe après sa victoire 3-1 au tir au but contre les Marocains. 0-0 sur l'ensemble des deux rencontres. Les Sénégalais retrouvent ainsi la phase de poule de la Ligue des Champions 15 ans après la Jeanne d'Arc de Dakar. En Coupe CAF, Esaü du Bénin est out malgré son match nul 1-1 arraché à Casablanca face au TASS. L'AS Kigali s'est aussi qualifié pour la phase de poule en dépit de sa défaite en Ouganda 3-1 face à Kampala Sidi. Napsa Star de la Zambie s'en tire aussi à bon compte malgré le nul 1-1 face à l'US Sango du Mozambique, tout comme Monastir de la Tunisie qui a fait un match nul 1-1 face à Al Ahly de Tripoli. 2-0 pour la JS Kabylie d'Algérie qui élimine du même coup l'US Gendarmerie Nationale du Niger. Qualification aussi pour le Coton Sport de Garoua qui a battu Green Eagles de la Zambie 1-0, tout comme pour le DC. C'est Mutoma Pembe qui a sorti 11 bravos d'Angolas battu 2-1. Ici, en NBA, les Browns James décisif a permis aux Lakers de s'imposer 94-92 dans le sillage de Kyrie Irving, seul leader d'attaque en l'absence de Kevin Durant. En quarantaine, les Brooklyn Nets ont corrigé Utah 130-96. Les Denver Nuggets ont eu du mal, mais se sont imposés contre Minnesota 123-116.
Merci beaucoup, Yakuba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Sénégal, le président Macky Sall a décrété un nouvel état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel de 21h à 5h du matin dans les régions de Dakar et Thiès qui concentrent la majorité des cas de coronavirus. Ces mesures prennent effet ce mercredi. L'annonce a été faite mardi soir par le chef de l'État sénégalais lui-même. Le point avec notre correspondant, Sedina Abagué.
Mbaye Diop la tuddu, étudiante à l'ISEC. En fait, couvre-feu bi yaakaar naa ni amna lu ko ëpp.
On parle de couvre-feu, mais je pense qu'il y a pire. Les rassemblements, les cérémonies, les marchés sont bondés de monde. De mon point de vue, il faut prendre des mesures pour régler ces choses beaucoup plus graves. D'autant plus que le président Macky Sall avait déjà pris ses devants. Mais aujourd'hui, c'est le laisser-aller total. Sincèrement, la nuit, tout le monde reste chez soi. Donc, encore une fois, je ne vois pas l'utilité de décréter un couvre-feu. Par contre, il faut respecter les mesures d'hygiène et les gestes barrières. Beaucoup de Sénégalais pensent que le virus n'existe pas. Le président Macky Sall doit orienter sa communication sur ça. Je pense que c'est mieux.
Respecter les mesures, c'est ce qui doit être le cas. Le président ne doit pas parler de ça. C'est ce qui doit être
le cas. Moi, je suis un Mohamed, je suis un commerçant de la Kenkere. Le couvre-feu, je suis un homme de la Kenkere. Je suis un homme de la Kenkere.
Le couvre-feu n'est pas une meilleure stratégie pour lutter contre la pandémie. Le commandement est individuel. Chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. Ceux qui travaillent jusqu'à 21h ou 20h30 et qui habitent loin, ces personnes vont faire comment? Pour les quincailleries, nous avons une heure fixe de fermeture, 21h30. Les clients le savent bien, donc le couvre-feu sera un manque à gagner. Regardez en ce moment, le marché est bondé. Donc le couvre-feu n'est pas une bonne chose et cela crée une tension entre les populations et les forces de l'ordre. On a vu ce qui s'est passé lors du premier couvre-feu. Ils sont-ils une peur bleue, un couvre-feu en ce moment avec la conjoncture? Nous les gagnons peu. On va faire comment pour subvenir à nos besoins? J'habite la banlieue, je serai obligé de rentrer tôt alors que mon business marche le soir. Le président Macky doit revoir les horaires du couvre-feu, 22h ou 23h jusqu'à 6h du matin. Je sais qu'il veut nous protéger du virus, mais il doit penser aux personnes démunies qui se battent comme des diables pour vivre. Il doit revoir cette mesure.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Togo, l'Assemblée nationale a voté le 29 décembre dernier un nouveau code du travail pour remplacer l'ancien vieux de 14 ans. Le nouveau texte salué par les syndicalistes met un accent particulier sur la protection sociale. La correspondante de VOA Afrique à Lomé, Kay Lawson, nous en dit plus.
Le code du travail de 2006 dans son application a démontré un certain nombre d'insuffisances et de faiblesses. Ainsi, les autorités togolaises ont jugé utile de procéder à une amélioration de l'environnement de travail en conformité avec les réformes socio-économiques engagées dans le pays. Le nouveau code du travail voté il y a quelques jours par les parlementaires fait de l'emploi décent une priorité. Gilbert Bahara, ministre togolais de la fonction publique du travail et de la réforme administrative.
La réforme du code du travail vise à favoriser la création d'emplois décents pour les populations togolaises. Il y a un souci légitime de la part des travailleurs de voir les conditions de travail, de voir les mesures de sécurité et de protection sociale être améliorée et renforcée. Un travailleur bien rémunéré, c'est un travailleur beaucoup plus productif.
Les syndicalistes se disent soulagés. Ephraim Tikplonou, porte-parole de la coordination des centrales syndicales du Togo.
Ouf, parce que nous avons longtemps attendu ce moment. Beaucoup de choses sont devenues caduques dans l'ancien code qui vient d'être remplacé et il fallait de nouveaux tests afin de bénéficier des tests plus adaptés à la période dans laquelle nous sommes actuellement.
En matière de protection sociale, le Togo n'est pas un bon élève. À part l'administration publique, dans beaucoup d'entreprises dans le privé, l'assurance maladie est presque inexistante et les travailleurs ne sont pas déclarés à la caisse de sécurité sociale. Pour les quelques rares employés qui sont déclarés, leurs cotisations ne sont pas payées. Des manquements qui seront désormais sanctionnés, prévient le ministre Gilbert Bawara.
Les dispositions pénales du nouveau code du travail sanctionnent la non-déclaration des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale et la non-diligence à l'obligation de souscription d'une assurance maladie en faveur des travailleurs, avec des risques de pénalité.
Dès sa promulgation par le président de la République, le nouveau code du travail entrera en vigueur. Concernant l'obligation de souscription à l'assurance maladie, les entreprises du secteur privé disposeront d'un moratoire d'un an pour s'y conformer. Pour ce qui est de la revalorisation du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est de 35 000 francs CFA depuis 2012, les discussions continuent entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. Taylorson, Lomé, VOA Afrique.
Le Congrès américain se réunit ce mercredi soir pour enregistrer formellement le vote des grands électeurs à la présidentielle du 3 novembre. Si certains poids lourds républicains ont fini par admettre la victoire du démocrate Joe Biden, des dizaines d'autres parlementaires expriment leur objection, soutenant les allégations de fraude électorale avancées par le président Donald Trump. Pour comprendre ce processus d'enregistrement des votes des grands électeurs, Yacouba Ouédraogo a joint Herman Cohen, membre du Parti républicain.
Pendant les élections présidentielles, il y a un système de grands électeurs. Dans chaque État, il y a un certain nombre de grands électeurs selon la population. Et ces électeurs votent pour choisir le président des États-Unis après le vote de la population dans chaque État. Et le 6 janvier, tous les 4 ans, le Congrès se réunit, les deux chambres, pour compter les grands électeurs dans chaque État. Et aujourd'hui, ils vont faire ça. Et selon tous nos renseignements, c'est M. Biden qui a gagné chez les grands électeurs. Mais tout ce que le Congrès doit faire maintenant, c'est de compter les votes et déclarer qui a gagné.
C'est juste une formalité?
C'est juste une formalité. Mais s'il y a un membre du Sénat ou de la Chambre qui dit « Moi, je crois que les grands électeurs » un État, disons l'État de Pennsylvanie, dit « Pennsylvanie, ils ont 11 grands électeurs. Moi, je proteste, je crois qu'ils ne sont pas valides. Si il fait ça, chaque chambre doit faire un débat là-dessus, n'est-ce pas? Et après, voter. »
Justement, il y a des dizaines de républicains parlementaires qui ont promis d'exprimer leur objection par rapport à cet enregistrement des votes destinés à Joe Biden. Est-ce que ça peut empêcher Biden d'être président des États-Unis?
En principe, ça peut empêcher, mais je ne crois pas que ça va arriver aujourd'hui parce qu'il faut qu'il y ait un vote dans les deux chambres pour rejeter les grands électeurs d'un État, n'est-ce pas? Et comme les démocrates sont en majorité dans la chambre de représentants, ils ne vont pas voter contre Biden. Donc, ce sera une formalité, il y aura un débat. Finalement, après quelques heures, Biden va gagner quand même. Je crois qu'il y a certains républicains qui cherchent à augmenter ou améliorer leur carrière politique pour l'avenir. Ils disent que oh, dans 4 ans, je serai candidat à la présidence, je vais voter contre Biden parce que quand même, Trump a eu 70 millions de gens qui ont voté pour lui. Je vais prendre ces gens derrière moi pour la prochaine élection présidentielle. Donc c'est plutôt du théâtre.
La séance conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat sera présidée par Mike Pence. Donald Trump a essayé de mettre un peu la pression en disant que le vice-président a le pouvoir de rejeter les grands électeurs choisis de façon frauduleuse, selon lui. Quel est le rôle de Mike Pence dans tout cela?
Le seul rôle de Mike Pence, vice-président des États-Unis, c'est de présider la réunion des deux chambres. Il n'a pas de pouvoir de changer quoi que ce soit chez les grands électeurs. En ce moment, président Trump est en train de faire pression sur lui parce qu'il dit... Mike Pence peut déclarer que c'est moi qui a gagné. Mais selon la Constitution, c'est tout à fait faux. Tout ce que M. Pence peut faire, c'est de présider la réunion des deux chambres.
Herman Cohen, membre du Parti républicain, était joint ici à Washington. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne année à toutes et à tous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La campagne de pression maximale des États-Unis contre le régime iranien se poursuit. En novembre, le secrétaire d'État Mike Pompeo a annoncé des restrictions de visa visant les fonctionnaires iraniens impliqués dans de graves violations des droits de l'homme, notamment deux officiers du CGRI, le général de brigade Heydar Abbasadeh et le colonel Reza Papi. Ces hommes avaient la responsabilité du commandement de la violente répression des manifestations par les forces de sécurité en novembre 2019 dans la province du Khouzestan. Par la suite, le département du Trésor a sanctionné le ministre iranien du renseignement, Mahmoud Alavi, pour de graves violations des droits de l'homme contre le peuple iranien. En outre, les États-Unis ont imposé des sanctions à un énorme conglomérat de quelques 160 compagnies des secteurs clés de l'économie iranienne qui sont utilisées par le guide suprême Ali Khamenei pour enrichir son bureau, récompenser ses alliés politiques et persécuter les ennemis du régime. Dans une déclaration, le secrétaire d'État Pompeo a écrit « Ces sanctions privent le mécanisme de pression du régime des fonds nécessaires pour exécuter son programme dépravé. En novembre également, les États-Unis ont pris pour cible 4 entités en République populaire de Chine et en Russie pour avoir transféré des technologies et des articles sensibles au programme de missiles iranien. L'imposition de sanctions contre ces entités étrangères est cohérente avec nos efforts pour utiliser toutes les mesures disponibles en vue d'empêcher l'Iran de faire progresser ses capacités de missiles, a déclaré le secrétaire d'État Pompeo. Dans une déclaration séparée, le secrétaire d'État Pompeo a souligné que la campagne de pression maximale contre le régime iranien continue d'être extrêmement efficace. Il a cité la crise monétaire de l'Iran, l'augmentation de la dette publique et la montée de l'inflation. Il a également noté que depuis mai 2018, nous avons refusé au régime un accès direct à plus de 70 milliards de dollars de revenus pétroliers et continuerons d'empêcher le régime d'accéder à environ 50 milliards de dollars par an. En conséquence directe des sanctions, l'Iran a réduit son budget militaire de près de 25% en 2019. Les mandataires et partenaires terroristes du régime demandent de l'argent et ont été contraints de prendre des mesures d'austérité, même en laissant certains combattants terroristes en liberté. Les sanctions, a déclaré le secrétaire Pompeo, font partie de la pression pour créer un nouveau Moyen-Orient rassemblant des pays qui souffrent des conséquences de la violence iranienne et recherchent une région plus pacifique et stable. Les sanctions sont un outil essentiel de la sécurité nationale pour préserver la sécurité de la région et protéger la vie des Américains.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.